Bonjour Ludo.
Bonjour Jacqueline, salut à tous.
Alors forcément en ce moment, le malaise des agriculteurs qui s'expriment fortement, des manifs, des actions spectaculaires, les réponses du gouvernement. Au vu de la situation, est-ce d'un vrai nouveau pacte agricole dont on aurait besoin, Ludo, un pacte entre la société et les agriculteurs?
Oui, au-delà des revendications assez pratiques, hein, je dirais. Alors, pour reprendre les choses à la base, le métier d'agriculteur, c'est un métier par définition de l'incertitude. Le climat, la nature, on travaille avec le vivant. Et depuis toujours, on fait avec les échecs et les réussites. Les mauvaises et les bonnes récoltes. Nous avons toujours fait avec et on l'accepte. Aujourd'hui, l'agriculture, métier d'entrepreneur, secteur primaire aussi, et donc la base de notre société, au sens propre du terme, doit évoluer dans un monde de services, dans une société qui produit de moins en moins de choses, qui ne cesse de se protéger. Regardez, par exemple, comment fonctionne une entreprise de service. On envoie un mail en mettant en copie tout le monde, ou presque tout le monde, pour que tout le monde soit au courant, au cas où. On explique qu'il faut voir avec le N+1, le N+2 ou le N+3. On remplit des papiers pour se décharger des responsabilités de chacun. C'est une énergie folle pour une inertie maximum.
Ça s'appelle ouvrir le parapluie, Ludo.
D'accord. Alors ouvrir le parapluie, c'est un peu le contraire du bon sens paysan. Contraire du pacte qui avait été établi entre le paysan et la société.
Alors quel était le pacte agricole en France?
Alors la France est assez originale. Nous sommes la seule grande démocratie à avoir bâti notre modernité sur l'agriculture. Les Anglais l'ont bâti, eux, sur l'industrie. Les Allemands aussi l'ont bâti sur l'industrie. Nous, on a fait une réforme foncière qui s'appelle la Révolution française, 1789. On a partagé la terre qui était aristocratique à l'époque, ou religieuse, entre des fermiers.
En clair, tu nous dis que 1789, ce serait le premier pacte agricole.
C'était un pacte. Il n'a pas été fait pour ça, mais de fait, on a donné la terre aux paysans massivement. Donc là, on a fait une première chose, des paysans propriétaires. Ensuite, Jules Ferry, les républicains, ont décidé qu'il fallait enraciner cette république dans les campagnes. On a enraciné la paysannerie, elle a servi de garant politique. Elle était pauvre, souvent elle ne se nourrissait qu'elle-même en plus. Par exemple, actuellement, un paysan nourrit 100 personnes. À l'époque, en gros, il nourrissait à peine plus que sa famille. Mais on est allé en Afrique, on se nourrissait des colonies. C'est ça le deuxième modèle pour stabiliser la République. La campagne a une mission politique. On en a fait des soldats, on en a fait des combattants ensuite de 14-18 et des chefs de famille.
Donc ça, c'est le deuxième pacte à la fin des années 1800, début 1900.
Voilà, deuxième pacte politique et pas du tout alimentaire. Ensuite arrive la victoire de 1945, un monde à reconstruire et l'indépendance des colonies. L'Algérie devient indépendante et De Gaulle arrive. De Gaulle, il dit indépendance alimentaire, enjeu central, et nucléaire pour se protéger. C'est le troisième pacte alimentaire. Edgar Pisani, qui était un homme politique français, s'est demandé comment je vais pouvoir faire avancer ce nouveau pacte. Donc il s'est dit, je vais aller voir les femmes, catholiques, agricoles, et je vais leur dire, je vous finance la cohabitation entre les générations. Il a financé qu'on coupe les fermes en deux, et que les couples se retrouvent un peu plus dans l'intimité, et moins sous le pouvoir de la belle-mère par exemple.
De manière pratique, qu'un couple d'agriculteurs de 30 ans ne se retrouve pas à vivre avec ses parents.
Exactement, et on a encore les générations qui pourront
nous en témoigner.
Donc c'était exactement ça, et en échange il a dit, par contre, vous allez me faire une agriculture technique et industrielle, donc avec le diesel et la chimie. Les syndicats et les intérêts des hommes influents aux intérêts communs se retrouvent ici. Et c'est là où on a eu ce modèle productiviste pour nourrir la France et en faire une agriculture d'exportation en plus de ce rôle nourricier. Elle a effectivement porté l'agriculture, mais ce qui est fascinant quand même, c'est qu'à chaque fois, les agriculteurs font ce qu'on leur demande jusqu'à la naissance de la PAC. Aujourd'hui, ça continue, et je dirais grâce ou à cause de cette fameuse PAC. On oriente les aides et cela oriente l'agriculture qui en a besoin pour vivre, puisque les prix ne sont pas assez élevés. C'est bas prix qui servent à nourrir la France. Aujourd'hui, depuis 30 ans, on sait très bien que le pacte précédent est périmé, c'est celui bâti sur la chimie. Mais aucun nouveau pacte n'est écrit. On est aujourd'hui entré dans l'ère de gestion du vivant, d'une agriculture durable, mais dans un marché mondialisé. Donc l'agriculture s'est concentrée pour survivre sans que cela fonctionne. Et le consommateur, lui, s'est détaché de la terre pour consommer moins d'alimentaires, plus de logements, plus de loisirs et plus de biens de consommation. Ça me fait toujours un peu penser à la romantique.
C'est-à-dire, Ludo, qu'est-ce que ça vient faire là, la romantique?
La fameuse phrase qu'on leur donne du pain et des jeux. Alors ça, c'est une phrase dans Astérix Gladiateur, inscrite au fronton de la tribune attribuée à César. Du pain, alors c'est la métaphore pour dire de l'alimentation à pas cher. Les Français sont passés de plus de 35% de leur budget pour l'alimentation à 15% aujourd'hui. Acheter un kilo de bœuf à griller, par exemple, donc des bonnes pièces, aujourd'hui, il nous faut à peu près 2h30 de SMIC pour pouvoir se le payer. En 1970, c'était 7h, et en 1950, il nous fallait 30h. 30 heures de boulot. Pour vous dire un peu la notion que prenait l'alimentation il y a 70 ans. Les Français qui sont passés de plus de 35% de leur budget d'alimentation à 15%, nous, du côté des exploitations, on a agrandi les exploitations pour faire justement de l'alimentation à pas cher, financée par la PAC. On augmente le volume produit par ferme, on augmente l'argent créé, on nourrit plus de monde, on fait vivre plus de monde, mais le revenu, lui, reste stable. L'argent est parti ailleurs. Et les jeux, avec le pain, les jeux, c'est pour la société de loisirs que l'on a créée, en décalage avec le monde de l'élevage, les astreintes avec les animaux auxquels sont confrontés les éleveurs. Un fossé s'est creusé. Les éleveurs aimeraient vivre, comme le reste de la société, mais c'est difficile. Il faut profiter, partir en week-end, partir en vacances, aller boire un verre en after work, faire les magasins, changer la déco, etc. Tout ça, ce sont les jeux. Il faut divertir la foule, qu'elle mange et se divertisse, et tout ira bien pour le pouvoir. Le problème, c'est que les paysans ne mangent plus et ne s'amusent plus trop pour beaucoup.
Et les Jeux Olympiques, alors, Ludo?
Oui, alors, les Jeux Olympiques, et ça me faisait vraiment penser au Colisée, à César et tout ça, c'est vrai. Je ne suis pas sûr que ces Jeux Olympiques de cet été puissent atténuer la colère des agriculteurs.
Merci, Ludo.
Bonne journée. Ciao.